Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Jean-Jacques Alrivi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie. Vous avez longtemps enseigné au lycée Janson de Sailly à Paris. Et vous avez enchanté des générations d'étudiants et de terminales et de classes préparatoires en leur parlant de façon toujours originale et personnelle des Grecs, mythologues, tragédiens et philosophes, entre autres. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour que nous réfléchissions ensemble sur la figure de Tirésias. Cet homme apparaît à la fois dans Homère, précisément dans l'Odyssée, au début du livre 11, des vers 1 à 150, dans Sophocle, mais également chez Callimaque et chez les différents mythologues. Et si ce personnage m'intéresse particulièrement, c'est parce qu'il est celui capable de voir et de transgresser les limites de ce que les autres hommes ne peuvent parvenir à transgresser. Alors, est-ce que vous pourriez, Jean-Jacques Alrivi, dans un premier moment, nous expliquer un peu ces différentes figures de la transgression que Tirésias incarne ?
Si l'on commence par la figure qui apparaît le plus anciennement, enfin, dans l'Odyssée, enfin le texte en tout cas le plus ancien, il semble que c'est par rapport à la mort, puisque Zeus lui a accordé en quelque sorte de garder dans l'au-delà une forme de vie, disons plus vivante que celle des autres morts qui eux sont réduits à l'état d'ombre, alors que lui continue à posséder le souffle, la perception et peut parler et continuer à dire des paroles vraies et efficaces, c'est-à-dire à faire son métier de devin. Dans Sophocle, bon, il apparaît comme ayant des pouvoirs de devin, aussi bien dans Édipe Roi que dans Antigone. Mm-hmm. Mais ces pouvoirs, on ne peut pas vraiment dire que dans le cadre de la pensée grecque, ce soit vraiment des pouvoirs plus que humains, dans la mesure surtout où on insiste sur le fait que sa divination est en quelque sorte rapportée à une technique qui est l'interprétation des cris d'oiseaux ou des viscères des morts, et que donc en ce sens-là il n'est pas tellement en marge véritablement de la condition humaine.
En même temps, un devin, ça n'est pas donné à tout le monde.
Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est certain, mais c'est quand même une figure constante depuis Homère, bon, caractérisée par cette capacité de voir, savoir, n'est-ce pas, enfin, Eidenai en grec, non seulement donc les choses présentes, mais les choses passées et les choses futures rassemblées dans une sorte de vision présente. Mais c'est tout de même une fonction sociale à cette époque, donc on ne peut pas dire que ce soit là que la transgression ou le dépassement des limites de la condition humaine soit vraiment le plus marqué.
Alors là où c'est le plus marqué, c'est clairement chez Callimaque et chez les autres mythologues,
voilà.
Et il va être maintenant question de sexe.
Voilà. C'est cela. Alors, chez Callimaque, nous avons une version intéressante, au sens où il s'agit d'abord donc d'un jeune homme présenté comme tout à fait innocent, mais comme atteignant un âge, celui de la première barbe, où évidemment les jeunes gens ne peuvent plus avoir accès en quelque sorte au royaume des femmes, et donc le jeune homme chasse et par hasard il tombe sur Pallas Athéna en train de se baigner et il voit en quelque sorte la nudité de la déesse.
Il voit ce qu'il ne doit pas voir.
Oui, alors on ne sait pas d'ailleurs si c'est ce qu'il ne doit ou si c'est ce qui ne peut être vu. Bon, enfin, moi je ne suis pas mythologue de spécialité, donc je rapporte différentes opinions, si vous voulez. Soit pour certains, donc, il voit quelque chose d'impossible parce que cette déesse-là n'est jamais nue. cette déesse guerrière. Dans d'autres cas, c'est simplement, d'autres interprètes pensent qu'il s'agit simplement de l'interdit très courant dans beaucoup de civilisations pour un mortel de voir la divinité en face.
Alors, il va être puni
alors,
d'avoir
vu. Donc, la déesse, justement, l'aveugle. Donc, il est puni, bien sûr, par où il a péché. Et la mère du jeune homme, qui est une des compagnes préférées de Pallas, se lamente. Et en compensation, bon, il y a toute une série d'échanges là qui commencent et qui sont toujours importants dans ces montages en quelque sorte qui nous montrent des transgressions mais qui doivent toujours nous les montrer en quelque sorte accompagnés donc d'une compensation. Alors donc il restera aveugle puisque c'est son destin et qu'on ne peut pas refaire le destin, mais il aura la capacité divinatoire qu'il exercera donc.
Est-ce que vous pourriez, Jean-Jacques Alrévy, nous parler de ce que c'est qu'un devin, justement ?
J'ai dit tout à l'heure que donc il avait cette capacité de voir le passé, le présent et le futur. Bon, cette capacité, elle peut être obtenue de différentes façons, soit par des possessions directes du dieu, soit par des incubations, soit passer par l'intermédiaire donc d'une techné, c'est-à-dire donc d'un art défini, ce qui est, semble-t-il, donc le cas pour Tirésias. Bon, à partir donc du vol des oiseaux et des entrailles. Les devins étaient bien sûr extrêmement consultés, c'est pourquoi c'est une fonction éminemment sociale, étaient extrêmement consultés avant toute décision grave, soit d'ordre public, soit d'ordre privé. Et donc, ils apparaissaient comme ayant un rapport avec l'ailleurs, donc avec ce qui reste invisible aux autres hommes. Et ils étaient en quelque sorte chargés de dire aux autres hommes ce que le destin leur réservait, en quelque sorte.
Alors, venons-en maintenant à la troisième figure, au fond, de Tirésias, celle qui apparaît chez les mythographes, et qui est celle de cet être qui a successivement connu à la fois le statut d'homme et aussi le statut de femme, jamais en même temps, mais successivement. Alors, est-ce que vous pourriez, Jean-Jacques Alrévy, nous raconter comment certains mythographes mettent en scène ce devenir de Tirésias, d'abord homme, puis femme ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il change de genre ?
D'une part, il y a différentes versions. Bon, dans la plupart des cas, il est présenté comme étant un homme et comme changeant de sexe et puis retrouvant le sexe initial. Mais dans une autre version, qui est sans doute très tardive et qu'on soupçonne d'être peut-être un faux, Tirésias était né femme et ensuite devient homme et puis change 6 ou 7 fois de sexe à travers des aventures. Alors, si on s'en tient au premier cas de figure, donc homme d'abord et femme ensuite, il me semble que la construction même des textes des mythographes que nous avons nous conduit à ceci. Cette histoire de changements successifs de sexe ne serait pas une donnée première, ce serait une construction qui viserait à répondre alors à une interrogation des hommes, et j'entends homme ici avant tout au masculin. Ces hommes, en quelque sorte, disputant avec leurs femmes, et l'homme ici est, comment dire, figuré par Zeus et le roi des dieux, bon, et la femme par Héra, disputant de la jouissance sexuelle féminine. C'est-à-dire que Zeus prétend que la femme jouit beaucoup plus que l'homme dans l'acte sexuel, et Héra soutient le contraire. Bon. Et c'est à ce moment-là, dit-on, qu'on en appelle à Tirésias comme juge, puisque lui a connu les deux conditions. Mais visiblement, c'est un montage, c'est une façon d'essayer de trouver un biais pour répondre à la question. Mais une question qui tout de même ne cesse pas de se poser, dans la mesure où, de même que les hommes ne peuvent, les hommes en général ne peuvent pas tout à fait accepter facilement leur condition de mortel, de même ils n'acceptent pas facilement leurs restrictions que la sexualité évidemment leur impose. Et de ce point de vue-là, ils sont dévorés d'une espèce de curiosité, à titre peut-être de substitut, puisqu'on ne peut pas être l'autre. On va essayer de savoir, de voir savoir comment c'est fait. Ça, c'était la version de Callimaque. Comment une femme est faite, de la part donc d'un jeune homme qui veut voir savoir cela. Et dans notre cas là de la dispute, l'homme va essayer par le biais donc du devin de savoir si son intuition, puisqu'il en a une, est juste, ou bien si, au contraire, elle n'est pas juste. Bon, et donc, l'histoire, puisqu'il y a une histoire, fable, donc, dans le mythe lui-même, c'est bien sûr que la réponse de Tirésias donne raison à Zeus, dans des proportions d'ailleurs différentes d'un mythe à l'autre, mais enfin, en général, c'est la proportion la plus fréquente, c'est que sur 10 parts de jouissance, il y en a une pour l'homme et 9 pour la femme.
Donc la femme jouirait bien davantage.
Bien davantage, voilà. Bon, alors bien sûr, il faut toujours tenir compte du fait que ce sont très probablement des hommes qui écrivent aussi ces mythes.
Absolument.
Bon, on n'en est pas absolument sûr, mais c'est très probable. Et d'autre part, donc, ce mythe a la caractéristique suivante, c'est que la réponse de Tirésias déclenche une colère très violente chez la femme, chez Héra. Et elle le punit en l'aveuglant.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la colère d'Héra ?
Alors que justement, pas plus que les autres dans les secrets des dieux, mais cette colère. Il y a une interprétation qui a été donnée par Luc Brisson, qui a été reprise par Nicole Laureau, à savoir que Héra étant la déesse du mariage, c'est-à-dire d'une sexualité tout à fait convenable et où le plaisir n'entrait pas du tout nécessairement, c'est le moins qu'on puisse dire, en appeler ainsi justement à la jouissance sexuelle, c'était faire le jeu d'Aphrodite. Bon, à savoir donc de la déesse, elle justement, du plaisir et que la fureur des rats serait liée à ceci. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait les honnêtes femmes, d'autre part, les mauvaises femmes, et les honnêtes femmes sont tout à fait furieuses qu'on leur attribue justement quelque chose que les mauvaises femmes connaissent, bon, mais que, bien sûr, elles ne connaissent pas. Bon, c'est une interprétation possible. Je crois me souvenir que Lacan écrit quelque chose là-dessus dans les années 60, pas à propos de Tirésias, mais à propos justement de la jouissance féminine, puisqu'il s'interrogeait aussi sur la question de savoir si certains hommes, des mystiques, faits comme Saint-Jean de la Croix par exemple, ne pouvaient pas accéder eux aussi à une jouissance de type féminine. Et il disait, on n'en sait rien au fond sur la jouissance des féminines, et ce qui est très remarquable, c'est que jusqu'à notre époque, donc c'est un texte à peu près 1900, 60-70 à peu près, les dames analystes n'ont absolument pas contribué à nous éclairer là-dessus. Donc, Lacan, un petit peu comme Zeus et comme ses mythographes, aurait accrédité l'idée que les femmes ne voudraient pas que l'on vendît la mèche de leur propre jouissance. Non pas parce que, il y aurait une jalousie des rats, c'est-à-dire de la femme convenable par rapport à Aphrodite, mais parce que ces choses-là doivent demeurer voilées et que, les femmes, je ne sais quelle structure ou bien quelle habitude culturelle participerait à ce voilement de leur propre sexualité, et du même coup il faudrait évidemment punir ou rejeter avec horreur celui qui viendrait un petit peu soulever le voile.
On peut penser que l'idée que vous nous avez exhibée de la construction d'un jugement entre ces deux plaisirs est une idée à rejeter et que justement la possibilité d'une comparaison n'a au fond pas grand sens.
Oui, mais ça n'a pas grand sens, je ne sais pas. J'aurais tendance un petit peu à penser que ces choses-là ont tout de même du sens. Bon, même si elles sont impossibles, dans la mesure même où, justement, elles expriment au fond des restrictions, soit celles concernant la durée de la vie, soit celles concernant l'ignorance de l'avenir, soit celles concernant l'autre sexe, qui sont toujours tout de même des choses difficiles elles-mêmes à assumer, et que donc ces curiosités sont des rejetons, si je puis dire, de cette différence à assumer. C'est là le sens que je donnerais. Le sens, ce n'est pas effectivement tout de suite un débat pour savoir qui jouit plus ou moins, bon, parce que c'est absurde, effectivement, oui. Mais le fait que ça participe de cette difficulté qu'a l'être humain, qui, du fait qu'il parle, a accès à une espèce d'infinité, alors que son corps mortel, sexué, lui rappelle évidemment à tout instant des limitations que d'une certaine façon il cherche à transgresser. Et c'est en ce sens-là que je pense que cette question, elle, cette curiosité, elle a du sens, même si elle est vouée à ne pas aboutir et à créer des conflits.
Ce que vous nous montrez, du même coup, Jean-Jacques Alrivi, me semble-t-il, c'est que la mythologie n'est pas le lieu de l'irrationnel, mais il est le lieu où le symbolique donne ses formes à la pensée, et qu'il y a donc comme une rationalité de la mythologie.
Voilà, et effectivement, et dans une émission comme celle-ci, je pense que c'était important de le dire, il n'y a nulle irrationalité dans tout ceci, à partir du moment où on ne croit pas de façon réaliste à toutes ces histoires, mais où on essaie d'y voir une expression justement de la condition humaine dans sa réalité même, et que ceci n'a rien de particulièrement irrationnel.
Jean-Jacques Alrivi, je vous remercie. Vous pouvez réécouter les émissions de l'Union Rationaliste sur notre site www.union-rationaliste.org. Vous pouvez également nous écrire à l'Union Rationaliste, 14 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Je remercie Brigitte Mazir et Philippe Carminati qui ont rendu possible cette émission.